Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork La Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir une entreprise, une startup. Et pour ce faire, j'accueille Sébastien Rollins. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le CEO de Jumple. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de Jumple. On va découvrir Jumple. Alors Jumple qui est une marketplace qui verra le jour donc en juin prochain. Si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Donc Jumple est une nouvelle plateforme e-commerce qu'on lancera effectivement en juin prochain, sur lesquelles vous pourrez retrouver tous les produits que vous désirez acheter, que vous achetez habituellement sur des grandes plateformes qui seront nos futurs concurrents. L'originalité de Jumple, elle ne va pas se trouver sur les produits, parce que vous pourrez retrouver de la puériculture, vous pourrez retrouver de l'alimentaire sec, vous pourrez retrouver de la mobilité, de l'informatique, etc. L'originalité va être sur l'expérience d'achat, l'expérience du consommateur. Et Jumple veut s'inscrire dans ce qu'on considère des nouvelles demandes de la société actuelle et à venir, post-Covid. On détecte aujourd'hui des demandes des consommateurs qui sont beaucoup plus tournées vers l'environnement, vers la conscience environnementale, et Jumple développera l'expérience d'achat dans cet axe-là. Et deuxièmement, on veut s'inscrire dans une actualité forte qui est celle du pouvoir d'achat. Et donc Jumple va pouvoir garantir aux consommateurs un pouvoir d'achat plus élevé, tout simplement. Il va pouvoir lui garantir. Et puis, troisième axe, on considère que les consommateurs sont en demande forte de transparence pour pouvoir bien choisir leurs produits et les choisir en conscience par rapport notamment à leur origine, à leur impact, aux entreprises qui sont derrière et qui les mettent sur le marché.
Donc là, vous venez concurrencer le monstre Amazon, en fait.
Oui, effectivement, on vient le concurrencer peut-être sur son offre, sur ses produits. Par contre, on s'inscrit comme une alternative réellement différenciatrice sur le modèle économique.
Et alors justement, vous parlez donc du pouvoir d'achat, vous garantissez donc des prix assez bas.
Alors, pas des prix. Je vais vous expliquer. Les prix faciaux sont assez comparables à ce que vous pouvez trouver ailleurs, puisque les marques qui seront sur Jumple sont des marques que vous pourrez retrouver également ailleurs. Donc, elles pratiqueront des prix qu'elles souhaitent et qui seront a priori assez homogènes. Ce que Jumple fait, c'est prendre une décision assez fondatrice dans ce modèle économique. C'est de se détourner et de s'éloigner de la dépendance à la publicité transactionnelle. Aujourd'hui, en France, plus de 8 milliards sont dépensés par an dans la publicité digitale. Alors, une grande part est utile et nécessaire, et nous en ferons aussi pour nous faire connaître. Par contre, une certaine part consomme énormément du pouvoir d'achat des consommateurs aujourd'hui. Il s'agit de la publicité qui vous affiche des produits sur les moteurs de recherche, notamment. On décide de s'en détacher. Pourquoi ? Parce que ça devient complètement inflationniste. Ça consomme pratiquement 10 à 15% du prix d'un produit. Et ça devient inflationniste, pourquoi ? Parce que ce qu'on observe dans l'e-commerce, c'est une harmonisation des catalogues. C'est-à-dire que toutes les grandes plateformes aujourd'hui présentent un catalogue plus ou moins similaire. Le consommateur va choisir sa plateforme et il trouvera les produits qu'il souhaite. Donc la concurrence se fait sur la visibilité. C'est plus le catalogue qui crée la différence, c'est la visibilité. Et donc les grandes plateformes se battent pour être visibles et donc surenchérissent pour être visibles. Et ça augmente le prix indirectement des produits et donc ça diminue le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce qu'on décide de faire, c'est de se détacher de ça, de faire beaucoup moins, voire pas du tout de publicité sur les produits. Et cet argent sauvegardé, on va le redonner sous forme de cagnotte dépensable immédiatement aux consommateurs. Donc sur Jumple, quand vous ajouterez un produit à votre panier, vous aurez une cagnotte qui vous permettra de réduire le montant de votre commande immédiatement, ou, et c'est là qu'on s'inscrit aussi dans une démarche environnementale, de participer à des programmes de décarbonisation. Et si vous souhaitez, je peux vous expliquer la partie effectivement environnementale sur Jumple.
Alors juste, comment vous allez vous faire connaître si vous ne faites pas de publicité ?
Alors on va faire de la communication, c'est-à-dire qu'on va faire de la publicité sur notre modèle économique et sur la vertuosité de notre modèle. On est convaincu que notre expérience d'achat sera assez forte pour qu'un consommateur qui essaye Jumple aura envie de revenir. Ça, c'est une première hypothèse forte. Et deuxièmement, qu'il aura envie d'en parler. Donc, on revient à un modèle qui est du bouche à oreille, de l'influence. Donc, on va communiquer massivement sur les médias, sur les réseaux sociaux, mais on va pas dépenser à tout va sur des enchères. Voilà.
D'accord. Et alors, le côté RSE, justement, que vous évoquiez, qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a deux axes. D'abord, sur la partie environnementale, on y tient beaucoup. Je pense que, et peut-être grâce au Covid, le Covid n'a pas fait que des choses bien, malheureusement, mais j'ai l'impression, et beaucoup de gens le confirment, qu'il a permis une accélération de la conscience environnementale dans l'ensemble de la société dans laquelle nous sommes. Et donc, Jumple veut accélérer cette prise de conscience, déjà par mesurer le plus précisément possible l'empreinte carbone de chaque produit. Donc on sera la première marketplace sur un catalogue aussi vaste à donner le détail, notamment du coût carbone de transport d'un produit, de matières premières, etc. Donc sur chaque fiche produit, il y aura une estimation du coût carbone. Donc ça, c'est pour informer, sensibiliser les personnes. Ensuite, de ces informations-là, on extraira un éco-score, c'est-à-dire une vulgarisation de ça. Donc, 5 petites feuilles vertes qui pourront vous dire est-ce que ce produit dans sa catégorie est un produit qui impacte l'environnement ou pas. Basé là-dessus, le consommateur pourra mieux choisir. Donc, il sera informé, il pourra mieux choisir. Et s'il met son produit au panier et qu'il décide de consommer, on permettra au panier, grâce à la cagnotte, de pouvoir utiliser la cagnotte pour venir participer à des programmes de notamment de reforestation et de décarbonisation. Donc, qui sont des partenaires à nous dans le cadre du projet Jumple.
D'accord. Et alors, allez-y.
Et sur la partie RSE, dans cette expérience d'achat également, toutes les informations liées aux produits, l'origine des produits notamment, les statistiques de commerciales des produits, le nombre de ventes, le nombre de retours, le nombre de prises sous garantie, etc., seront communiquées si on les a. Et toutes les informations liées à la répartition, je dirais, de l'argent dépensé par les consommateurs, c'est-à-dire la part qui va chez le vendeur, la part qui va chez Jumple, la part qui va en publicité, etc., tout sera transparent. Donc le consommateur sera averti de A à Z de comment son argent sera finalement soit dépensé, soit réinvesti par les acteurs qui vont le toucher, tout simplement.
Et alors, la livraison, parce que c'est vrai que quand on parle marketplace, on pense toujours à la livraison. Comment vous envisagez la chose ?
Alors, les livraisons, aujourd'hui, on sera une plateforme e-commerce purement marketplace, c'est-à-dire des vendeurs qui vendent eux-mêmes leurs produits aux consommateurs, et nous, on s'inscrit comme intermédiaire. Donc, la livraison incombe aux vendeurs. Par contre, nous avons un rôle de maintien de la qualité, c'est-à-dire qu'on doit s'efforcer que les vendeurs livrent rapidement et sans défaut aux consommateurs. Donc, premièrement, on choisit nos vendeurs, c'est-à-dire qu'on qualifie, on s'assure que nos vendeurs sont des vendeurs avertis et qui font ça depuis longtemps et qu'ils ont des bons taux de qualité chez nos concurrents. Ces vendeurs, on les qualifie, on les recrute, on les intègre et donc et par la suite, on suivra leur niveau de qualité sur les livraisons pour s'assurer que le service est optimal pour les consommateurs.
Est-ce que vous allez stocker comme d'autres concurrents, futurs concurrents de la marchandise ?
Tout à fait. Donc au lancement en juin, ce ne sera pas encore effectif, mais le projet est en cours. Et donc on sera capable d'offrir un service de fulfillment, comme on l'appelle, à partir de septembre ou octobre, pour permettre de garantir un service encore plus élevé en termes de livraison. Alors sur la livraison, souvent ça se confronte, enfin la rapidité de livraison peut se confronter au sujet environnemental également. Donc Jumple va offrir des livraisons express rapides.
Oui, forcément, c'est moins écolo.
Exactement. Mais ce sera au choix du consommateur. Et pour le coup, il choisira ça donc au niveau du panier. Et dès son choix, on pourra lui dire l'impact CO2 de son choix. Et donc, on va là aussi encourager le consommateur à prendre conscience de sa décision. Est-ce que le produit qu'il est en train d'acheter nécessite vraiment qu'il soit livré demain ? Pour le coup, est-ce que s'il est livré deux jours plus tard, ça vaut pas le coup de penser un petit peu à la planète ?
Voilà. Et alors, comment vous envisagez d'être rentable ?
Alors, dans notre modèle économique, on a protégé notre rentabilité, je dirais. Une place de marché pour fonctionner a besoin d'environ 6 à 7 % du volume d'affaires. D'accord ? Donc cette partie-là, on l'a inscrit dans nos tarifs auprès des vendeurs. Par contre, il faut bien voir que le prix moyen d'une commission d'une place de marché, c'est environ 15 %. Donc la différence, c'est cette fameuse acquisition. Voilà. Et donc, nous, quel que soit le choix de service des vendeurs, parce que les vendeurs pourront venir choisir chez Jumple le niveau de service qu'ils veulent, ils pourront, nous, on touchera exactement la même chose, qui est environ 6 à 7 points.
Voilà. D'accord. Comment vous recrutez là les vendeurs ?
Alors, on a listé tous les vendeurs de qualité qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc, on en a à peu près 100 000 dans notre base de données. On en a qualifié et préqualifié 3 000 et on s'apprête à en recruter 300 pour le lancement. Donc, on est vraiment sur la crème de la crème et on essaye d'approcher les vendeurs les plus qualitatifs.
Vous ne partez pas de rien puisque c'est une entreprise au final qui a pivoté.
Tout à fait.
Racontez-nous un peu votre histoire.
En fait, ça fait moi 15 ans que je suis chef d'entreprise dans l'e-commerce. On s'est construit sur le business des robots aspirateurs en premier lieu et on s'est développé après sur tout le domaine de la domotique et de la robotique. Donc on a eu une croissance également forte sur les robots tondeuses, sur les robots piscines et donc on était ce qu'on appelle un e-commerce nicheur, très vertical, très spécialisé. Et on a appris énormément. On a eu une très belle croissance. On a atteint une quarantaine de personnes en effectif avec une très belle profitabilité. L'histoire dit que, sortie du Covid, tout a changé, notamment en termes de coûts. Tous les coûts ont explosé.
Matières premières,
transport, coûts euro-dollar, etc. Donc tous nos coûts ont explosé. Et la demande a fortement chuté, et violemment chuté, surtout dans notre secteur, au début, et je pense que c'est en train de se généraliser dans d'autres secteurs aujourd'hui. Pourquoi ? Ben parce que les robots sont des produits de confort. Clairement, notre plus gros concurrent sur un robot aspirateur, c'est un balai à 10 euros. Donc, à un moment donné, quand le souci du pouvoir d'achat commence à apparaître chez les consommateurs,
oui, forcément, on va
on est les premiers touchés. Voilà. Oui. Alors, il n'y a pas que les robots qui sont touchés, mais tous les produits de confort sont touchés en premier. Donc, on a senti ça très vite. Et pour faire simple, on est passé d'un business qui faisait à peu près 10 à 15 points de profitabilité à un business qui faisait 10 à 15 points de perte en l'espace d'un an.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on perdait 200 000 euros.
Et ça en 2021,
par
après.
Exactement, 2021-2022. 2022, ça a été.
Donc c'était vraiment l'approvisionnement des matières, des matériaux. Quoi.
Donc là, en tant que chef d'entreprise, on se dit quoi ? On se dit, on a été raisonnable dans le passé, on a mis de côté, on a accumulé des fonds propres, donc c'est une force. Et on regarde, on perd 200 000 euros par mois, donc combien de temps je peux tenir par rapport à ces fonds propres ? Grosso modo, on conclut qu'on peut tenir un an et demi grand maximum, en faisant des efforts et malheureusement en réduisant les coûts.
Donc la masse salariale.
La masse salariale. Donc on se trouve devant ce constat qui est qu'on nie au premier abord, parce qu'on se dit il y a toujours des solutions, il y a toujours une façon de rebondir, etc. Mais le temps avançant, les chiffres étant là, on se dit on peut plus l'éviter, on va dans le mur à un moment donné. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on informe ses salariés, et c'est ce que j'ai fait, je leur ai dit aussi simplement que ça, on va dans le mur, donc on a un an à tenir, donc on a deux choix. Soit on laisse filer cette année-là, et je vais devoir prendre des décisions tristes et radicales, et on attend que tous ces contextes extérieurs de coûts qu'on ne contrôle pas s'améliorent, mais il y a peu de chance en fait. Soit on décide de reprendre le contrôle. Et à ce moment-là, je leur propose un nouveau projet, qui est Jumple, et je leur dis... est-ce que vous embarquez dans ce projet-là ? Et au moins, on saura ce qu'on fait. On construira quelque chose qui correspond à nos valeurs. On continuera à travailler ensemble. Et au pire du pire, si ça ne marche pas, on aura fini par quelque chose qui nous a plu.
Essayé.
Et on aura essayé. Et donc voilà, c'est une démarche très sincère, très simple. Donc, au lieu
et courageuse de, aussi. Hein.
Courageuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, maintenant, je me lève le matin en me disant que je fais quelque chose et quelque chose qui peut peut-être amener à la société, ce qui est plus satisfaisant que de compter ses pertes et d'attendre gentiment que quelqu'un d'autre règle le problème.
Et comment l'ont pris vos collaborateurs ? Alors, déjà, j'imagine que ça n'a pas été une surprise. Ils s'en rendaient bien compte
oui,
que
alors,
ça allait plus.
Oui, bah après, c'est toujours variable parce qu'il y a des personnes qui ont des postes où ils sentent les choses beaucoup plus fortes. Oui. Plus voilà. Donc, c'est dur. C'est difficile, surtout qu'on était plutôt dans une
dynamique. Mais ils voyaient
bien
que la production baissait,
oui,
en tout
bien
cas.
Sûr, bien sûr. C'était inévitable. Mais après, tout le monde n'est pas dans les chiffres. Donc, à un moment bien donné, sûr. Les chiffres rattrapent, rattrapent les observations et on voit bien que... Il y a un gros problème. Donc c'est dur parce qu'il y a une prise de conscience immédiate. Il y a le chef d'entreprise qui vous dit c'est fini en fait. c'est fini, alors que tout le monde a envie de revenir le lendemain et de continuer à travailler, parce qu'on est une entreprise, une petite boîte relativement familiale, et on aime travailler ensemble, en fait. Donc, c'est difficile. Et donc, mais moi, quand je dis ça, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, en fait. Et la plus belle des surprises, c'est quand... l'ensemble des salariés, le lendemain ou quelques semaines après, parce que chacun doit réfléchir aussi, dit bah, « en fait, on continue malgré la difficulté, etc. Et vas-y, Sébastien, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt. » Ça, c'est absolument génial. Et c'est là qu'on s'aperçoit que oui, l'ambition, la promesse d'argent, etc., c'est quelque chose d'important dans une carrière, dans une vie professionnelle, mais qu'il y a aussi autre chose. Il y a aussi l'envie de travailler avec quelqu'un qui surpasse beaucoup de choses à un moment donné, et c'est aujourd'hui ça qui nous tient, et c'est ça qui permet à un projet grand comme Jumple de naître sur des fondations de personnes qui connaissent très très bien leur métier, et sur des fonds propres qu'on a pu créer par une activité, certes, qui décroît, mais qui est cet argent. Est là, et ça nous permet de réinvestir sur quelque chose de fort. Mmh.
Est-ce que, donc là, vous avez dit que vous avez investi en fonds propres. Est-ce qu'il y a des personnes, des investisseurs potentiellement intéressés l'année à venir ?
Alors, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas lever de fonds pour l'amorçage. J'ai voulu faire la levée de fonds sur fonds propres et sur soutien bancaire. Bien
c'est
sûr.
Pas plus mal
voilà.
En ce moment. Ouais,
je suis plutôt un gestionnaire raisonnable. J'aime bien démontrer avant de faire des promesses. Donc, on va démontrer. Et bien sûr, sur 2024, parce que nos ambitions sont aussi à l'international, sur 2024, le sujet de la levée de fonds sera très actif.
Et c'est vrai que les investisseurs, maintenant, demandent de la rentabilité.
Exactement.
Et plus du développement. C'est ce que vous avez ressenti aussi, ce qu'on vous a fait comprendre, en tout cas.
Tout à fait. En fait, oui, tout a changé hein, là depuis un an, et c'est à la fois assez logique. Moi, je suis pas surpris. En fait, ça correspond plus à ma façon de voir les choses, de toute façon. Ouais. Moi, je pense que oui, c'est important de lever de l'argent pour l'amorçage, mais il faut faire attention de pas trop dilapider. Donc, il faut démontrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir démontrer un modèle économique avant de lever des sommes folles, en fait. Mmh. Voilà.
Pourquoi Jumple comme nom ?
Alors, Jumple, il y a un côté très rationnel parce qu'il fallait trouver un mot court à consonance un petit peu anglaise, qu'on a des ambitions internationales. Et puis, il fallait trouver des noms de domaines disponibles. Ça paraît bête, mais c'est pas si facile. Donc, trouver un .com en 5 lettres disponible, intelligible, c'est compliqué. Donc voilà, on a brainstormé pendant un mois tous ensemble. On a trouvé pas mal de noms. Et donc, Jumple a répondu à ce côté rationnel. Et puis après, il y a l'irrationnel. C'est juste qu'on a trouvé ça sympa. C'est gay, c'est entraînant. Ça symbolise un saut. Alors, avec l'histoire que je viens de raconter, il y a cette forme de rebond.
Sens, ouais.
Voilà, ça prend tout son sens. Et puis c'est aussi un saut dans l'e-commerce. On essaie d'influer vers un e-commerce différent. Donc c'est un vrai saut dans l'avenir et différenciant. Donc voilà, Jumple.
Donc juin 2023, l'ouverture. Donc on trouvera ça sur jumple.com. Tout simplement. Et en fait, ça s'adressera à qui ? À tous les Français ou...
Tous les Français en premier lieu. Et nos ambitions sont européennes pour la suite, pour les
années
à venir.
Vous avez déjà des pays en tête ?
Oui, Allemagne, Espagne, Italie, c'est une évidence. Mais on attend cet amorçage en France. Ouais. On attend de valider notre modèle économique en France. Et après, on appuie sur le bouton pour le développement européen.
Et vous donnez combien de temps pour...
Pour le développement européen ? Ouais. Bah, c'est à l'échelle de 3 à 4 ans, a priori, pour couvrir l'Europe de l'Ouest, a priori.
Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire en fait d'ici juin ? C'est quoi les prochaines
Beaucoup
étapes ?
Beaucoup de choses. le challenge IT informatique est important. Donc, on a encore beaucoup de choses à finaliser sur la partie informatique parce que dans le modèle que je vous ai décrit, il y a pas vraiment de choses standards. Il y a beaucoup de choses assez innovantes. Donc, on n'a pas pu s'appuyer sur des pièces logicielles qui existaient ou des partenaires qui ont l'habitude de travailler avec des marketplaces. Donc, on a dû redévelopper pas mal de choses. Heureusement, on a été une entreprise qui a toujours investi sur l'informatique. Donc, on a des développeurs en
vous
interne.
Vous aviez déjà des développeurs.
Moi, je suis développeur aussi de formation, donc d'accord. On a cette culture-là IT qui est
absolument...
Et
vous absolument... avez recruté aussi, en plus
Alors, on n'a pas pu recruter. Par contre, on a fait des mouvements internes qui sont assez intéressants, avec des gens qui étaient prêts, justement, à aller sur ces métiers-là, qui avaient forcément déjà des bases.
Des bases, oui.
Et donc, on a remodeler nos équipes pour aller dans ce sens-là. Donc, on a beaucoup d'IT, on a de la communication à faire, parce que avec ce challenge de se mettre en retrait de la publicité, il faut communiquer et convaincre. Et puis, on doit recruter nos vendeurs jusqu'à la fin. Donc, on a un objectif de 300 vendeurs, comme je vous l'ai dit. Et donc là, on a commencé il y a à peine un mois. On devrait avoir ces 300 vendeurs, mais on a encore du travail à faire pour les recruter. Voilà.
Eh bien, voilà pour Jumpal. Et c'est vrai que c'est pas évident de recruter un... en ce moment.
Tout à fait.
Les vendeurs aussi, c'est pareil.
Tout le monde est prudent en ce moment, vraiment très prudent. Donc quand on est prudent, on a tendance à pas trop vouloir faire confiance aux choses nouvelles. Donc on doit convaincre. Mais nous, on est convaincus que notre modèle est beaucoup plus vertueux et va dans le bon sens.
Eh bien, merci infiniment. Donc, Sébastien Rollin, CEO de Jumpal, qui ouvrira ses portes, la marketplace qui ouvrira ses portes sur Internet en juin prochain.
Merci beaucoup.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork, la radio, et sur toutes les plateformes de streaming.